En Bougimaï, sur 93,8.
Vous avez la possibilité de réagir en nous appelant au 081 890 63 94. Vous pouvez également nous envoyer vos SMS au 081 070 2050. Si vous suivez cette émission sur Internet, vous pouvez participer en nous écrivant à l'adresse action@radiocapi.net. Devant un comportement violent, une attitude de passivité ne peut que favoriser l'émergence de la violence. Mais la prise des positions positives immédiates prenne son élan. Pour illustrer cela, nous allons nous rendre en Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Sachez qu'en plus du diamant qui fait sa réputation, Mbujimayi est aussi classé parmi les villes qui disposent d'un grand nombre d'enfants dits de la rue, autrement appelés ségués. En septembre 2004 dernier, une vingtaine de ces enfants de la rue ont été tués et plusieurs autres blessés. Aujourd'hui, la présence de ces jeunes sur la rue constitue un phénomène inquiétant pour la société et les organismes de protection des droits de l'enfant. Pour plus d'informations, nous vous proposons de suivre ce reportage présenté par Billy Yvan Toumba.
Les statistiques des services urbains chargés de l'encadrement des enfants et de la jeunesse indiquent que la ville de Mbujimayi compte présentement plus de 5300 enfants vivant sous la rue et dans les marchés. Présentement, la population de Mbujimayi est estimée à plus ou moins 3 millions d'habitants. Ce nombre d'enfants sous la rue inquiète déjà les habitants de Mbujimayi, surtout quand on sait qu'en mi-2005, ces enfants avaient disparu de la rue après les événements malheureux survenus en septembre 2004. Une vingtaine d'enfants avaient été massacrés et plusieurs autres blessés à l'aide d'armes blanches par un mouvement des creuseurs qui se propageait par la suite dans la population. Depuis lors, plusieurs ONG de défense des droits des enfants se sont investis en vue de mettre fin à ce fléau et prévenir des probables dérapages. Par quel mécanisme, Jean Vallée, programme manager à Save the Children, répond.
Nous avons mis en place une vaste campagne de sensibilisation à travers les équipes mobiles de sensibilisation qui vont dans les quartiers pour sensibiliser sur la vie en famille, les droits de l'enfant, les charges au niveau familial, les maladies qui font souffrir. Vont croire à la sorcellerie. Ces équipes mobiles rencontrent pendant plus de 4 heures, 5 heures, une cinquantaine de personnes pour échanger effectivement sur tous ces aspects. Nous essayons aussi de passer par les émissions radio, par le théâtre, fait par les adultes, mais aussi fait par les enfants, pour amener les gens à comprendre la situation. Quand quelqu'un est violent, c'est que quelque part en face, on l'a violenté. Et il faut faire attention. Ce que nous faisons, nous rentrons dans un processus d'échange, de négociation avec l'enfant pour sa réunification au sein de sa famille. Et nous utilisons l'approche de l'identification, la documentation, la médiation qui prend un grand temps et en fait la réunification.
Dans leur démarche, les organismes de protection des droits de l'enfant interpellent les parents qui, à un certain niveau, se dérobent de leur rôle premier de tuteur et d'encadreur. Cette interpellation des ONG touche au plus haut point le moral de certains parents. Ils affirment en effet qu'ils ont du sang humain et partant, nul ne peut volontairement sacrifier sa descendance si ce n'est pas lié à des raisons d'ordre financier.
Ça nous interpelle plus. Ces enfants-là, ce n'est pas de leur volonté qu'ils se sont retrouvés dans la rue, ni la volonté des parents non plus. Les parents n'arrivent plus à justifier leur rôle en tant que parents. Des minutes de tout, là où ils travaillent, ils préfèrent 10 mois, 20 mois sans être payés, et maintenant ils ne sauront pas contenir la charge de la maison. Donc c'est lié à la pauvreté et manque d'emploi des parents. Ça nécessite une solidarité, une conscientisation, mais de tirer quoi. Mais on peut récupérer les enfants à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui ont déjà abandonné leur droit conjugal, leur donner une formation, et ces enfants-là pourront maintenant arriver à se prendre en charge.
Entre responsabilité du phénomène, c'est un jeu de ping-pong entre le pouvoir public et les parents. Pour l'État, il faut des mesures contraignantes afin de pousser les parents à ne pas renvoyer les enfants du toit paternel. Mesures qui cependant n'ont jamais été exécutées. Toutefois, les autorités publiques disent qu'elles veillent à la protection de ces enfants abandonnés comme la société tout entière. Mais adjoint de la vie.
Chaque fois que les enfants se rendent coupables de vol ou de tels méfaits, la police est là pour l'ordre public. Ça va.
Avec nos services techniques, nous veillons à la réunification de ces enfants avec leur famille. Et ensemble avec les
des organismes qui s'occupent des enfants, c'est sûr, d'encadrer ces enfants. Mais ce qui est vrai, c'est que avec Madame le maire, à des intérims, nous allons faire tout un dossier à soumettre à l'autorité provinciale pour les moyens qu'il faut pour encadrer ces enfants dans la ville d'Mbujimayi. Et parce que le plus grand problème, c'est quand ils n'arrivent pas à manger comme il faut à la maison, alors ils vont carrément dans la rue. Nous allons aussi, de manière contraignante, amener tous les parents à reprendre leurs enfants.
La prise de responsabilité des parents et la non-application des mesures par l'État créent un sentiment de révolte chez les enfants qui se voient sur les rues abandonnés par la société. Face à la souffrance et à l'absence d'encadrement, ces enfants adoptent des attitudes de violence. Dans leur nouveau milieu où ils vivent, ces enfants plaident pour plus de considération de la part des autorités et de la société. Ils déplorent les comportements violents affichés des fois par leurs compères.
Nous sommes différents et beaucoup d'entre nous ont été tués. Et nous qui sommes restés, pour le moment, nous ne sommes plus appelés enfants du marché. Nous sommes sur la rue ici pour nous débrouiller, chercher afin de trouver à manger. Nous ne sommes pas là pour commencer à tracasser la population. Nous ne sommes plus là pour injurier. Nous respectons toutes les personnes, nous les considérons. Ceux-là qui font encore des bêtises, ce sont ceux-là qui prennent du chanvre. Certains parents, ils chassent certains de nos amis pour soi disant qu'ils sont sorciers. Il y a d'autres qui sont chassés parce qu'ils ont volé. Et il y a d'autres qui partent de leur maison juste par l'influence du milieu, tentés par la cupidité. Et pour tout ça, les parents ont tort. Pour ce qui est de l'État, nous reprochons le fait qu'on laisse qu'on puisse brûler les enfants. L'État n'est pas là pour tuer les gens. Au contraire, il doit s'arranger pour nous trouver des endroits où nous pouvons suivre la formation pour que nous puissions être aussi utiles dans la société.
La réintégration de cette catégorie d'enfants dans la société tient à des actions plus concrètes sur le terrain qu'à une multitude d'engagements livrés que souvent restés lettres mortes. Si des efforts conjoints, organismes de protection des droits des enfants, communautés et surtout autorités publiques n'aboutissent pas, il sera difficile d'éviter des actes de violence tels que vécus jusqu'ici. Billy Van Lutumba, Mbujimayi, Radio Okapi.
Voilà, c'était là un reportage de Billy Yvonne Lutumba sur la situation des enfants dits de la rue à Mbujimayi. Retenez que les enfants de la rue, c'est pas seulement à Kinshasa, mais c'est également à Mbujimayi. Nous avons plusieurs réactions. Vous pouvez déjà réagir là où vous êtes, à Mbujimayi ou ailleurs. Appelez-nous au 081-890-6394. Vous pouvez envoyer vos SMS au 081-072-50. Si vous suivez cette émission sur Internet, vous pouvez participer en nous écrivant à l'adresse action@radiocapi.net. Nous avons déjà une réaction dans ces studios. Elle vient de M. Isiaka Rajabo, qui est informaticien et cadre dans une grande société de la place sur place à Mbujimayi. Il dit, c'est à propos des enfants de la rue à Mbujimayi. Selon les informations en ma possession, la majorité de ces enfants est composée des enfants des familles refoulées du Katanga. Ce n'est que l'une des conséquences de cet acte. Comment expliquer cela autrement, même si à travers toute la RDC, on rencontre les enfants de la rue? Mais le nombre de ceux-ci à Mbujimayi est trop élevé. Vous pouvez également réagissez en nous appelant au 081-890-63-94. Nous allons recevoir à présent notre invité, professeur Okumba Wichisambi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en communication. Alors, nous parlons de la violence aujourd'hui, la violence, la passivité qui favorise l'émergence, le développement et la continuité de la violence. En revanche, la prise de position, nous disons, positive, immédiate et continue permet de l'éviter. Alors la première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par passivité face au conflit de groupe.
Ben, la passivité est une attitude. C'est une attitude caractérisée par la volonté de ne rien faire, de ne pas agir. Et la passivité face au conflit de groupe se remarque très souvent chez des personnes qui, bien que témoin des atrocités, mais pose aucun acte pour contrecarrer cette violence. Je peux dire qu'en fait, toutes les guerres et tous les conflits ont leur lot des témoins passifs.
Par exemple, pour le cas de Mbujimayi, nous savons qu'en septembre 2004, une vingtaine d'enfants de la rue ont été tués, d'autres blessés par un mouvement des 13 heures, et qui était soutenu également par la population. Alors, est-ce que c'est ça qu'on peut appeler la passivité? La population a pris part également à cette manifestation-là?
Oui, là, je ne parlerai même plus de la passivité. Quand la population intervient pour faire la chasse aux enfants de la rue, ils ne sont plus passifs. La population est intervenue pour agir, et là, c'est le pire. Le passif, c'est celui qui est témoin, qui regarde, qui voit, mais qui n'intervient pas ou qui ne fait absolument rien. Mais les personnes qui interviennent dans la violence, ce sont des bourreaux. Je dirais que dans ce cas-là, la population s'est comportée comme un ensemble de bourreaux.
Donc, si pour parler de la passivité, on peut énumérer, parler du silence et de l'impunité.
Il y a le silence, il y a l'inaction, il y a l'impunité. En fait, la passivité se présente sous toutes ces formes-là, effectivement. Oui.
Et pourquoi certaines personnes sont passives devant des situations pareilles?
La passivité a plusieurs causes. Je vais essayer d'en épingler quelques-unes. À mon avis, la principale cause de la passivité, c'est la peur. Les bourreaux s'arrangent toujours pour créer un climat de peur, un climat qui terrorise tout le monde, aussi bien les personnes ciblées que les personnes qui ne sont pas ciblées. Et les bourreaux créent ce climat, en fait, pour empêcher des interventions à l'encontre de leur entreprise.
Mm-hmm.
Et dans ces conditions, certaines personnes, certains témoins se réfugient dans le silence et dans l'inaction. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, pour moi, de la passivité, c'est l'approbation. Y a des gens qui n'interviennent pas tout simplement parce qu'ils approuvent ce qui se passe. Sans rien dire. C'est ce qu'on peut appeler une tacite approbation. Donc, l'approbation aussi peut être à l'origine de la passivité. La troisième cause de la passivité, pour moi, c'est l'indifférence. Vous savez, dans toutes les sociétés, dans tous les groupes, on trouve des gens qui ne s'intéressent à rien. Ils ne sont frappés par rien, ils passent devant la violence, et ça leur dit absolument rien, et ils restent passifs. Et je compte parmi les causes de la passivité également le conformisme. Le conformisme qui consiste dans l'adoption par un sujet d'un jugement, d'une position ou d'un comportement qui est partagé par les autres membres du groupe. Ce sont là les principales causes de la passivité.
Alors, professeur Okomba, comment cette passivité peut-elle favoriser le développement et la continuité de la violence?
Bon, permettez-moi de dire d'abord que sans passivité, il y aurait très peu de violence dans la société.
Oui.
Et en fait, la passivité aurait du mal à se développer si tous les témoins réagissaient d'une manière ou d'une autre.
Mais cela peut aussi vous entraîner des représailles de la part du bourreau.
Oui, bien entendu, nous allons en parler. Mais je pense que la passivité développe la violence de plusieurs manières. Premièrement, la passivité fait croire aux bourreaux, à tort d'ailleurs, que leur entreprise est juste, qu'elle est normale. Et alors les bourreaux se sentent encouragés un peu par la passivité des uns et des autres. Mais la passivité légitime aussi la violence, dans la mesure où l'absence d'objection tend à conférer à cette violence le caractère de ce qui est acceptable.
Et puis enfin,
on remarque très souvent que les témoins qui sont passifs finissent généralement par rejoindre le camp des auteurs de la violence pour bénéficier d'une certaine protection. Donc, voilà de quelle manière la passivité en fait contribue effectivement au développement de la violence dans la société.
Alors, professeur, nous savons par exemple qu'il y a des gens qui préfèrent garder silence dans des conflits pour éviter d'être pris à partie. Souvent, ils font cela parce qu'ils ont peur, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, la peur des représailles. On sait par exemple au marché à Kinshasa, il y a parfois des enfants de la rue qui sont organisés en bande et ils font du pickpocket. Et dès qu'il y a une vendeuse qui voit et qui essaie de dénoncer rapidement, ils vont tomber sur elle pour la punir. Comment quel conseil pouvez-vous donner à ces gens qui sont passifs parce qu'ils ont peur?
Bon, je leur donne trois conseils. Le premier conseil, c'est de s'armer de courage et de développer la culture du non, la culture du refus. Cette culture n'est pas très très développée dans notre pays. Il faut refuser toutes les formes de violence. Le deuxième conseil, c'est de s'opposer individuellement à toutes les formes de violence et chaque fois que c'est possible. Donc il faut pouvoir intervenir devant la violence, il faut dire non, et il faut faire quelque chose. Et ensuite,
comment est-ce que vous allez faire quelque chose alors que peut-être que vous allez subir les représailles?
Bon, évidemment, il faut évaluer le contexte.
Oui.
Il y a des situations où l'action individuelle est très dangereuse. Alors il faut faire très attention. Et à partir du moment où vous avez l'impression que l'action individuelle n'est pas possible ou elle est très dangereuse, Il faut savoir s'organiser collectivement. Il faut identifier toutes les personnes qui pensent comme vous, avec qui vous pouvez vous organiser pour intervenir.
Donc faire une dénonciation en groupe, disons.
Absolument. Dans le cas de l'action individuelle ou de l'action collective, il faut savoir témoigner. Il faut toujours témoigner, témoigner devant l'autorité et demander à l'autorité d'intervenir. Il faut impliquer les associations de la société civile. Il faut également faire intervenir les médias pour que les médias puissent dénoncer toutes les formes de violence.
Et cette dénonciation peut être aussi anonyme.
Oui, il y a des cas où une dénonciation explicite peut vous exposer à tous les ennuis. Dans ce cas-là, vous pouvez entreprendre une dénonciation anonyme.
Donc vous trouvez que ça soulève maintenant un autre problème de sécurité. Il faudrait que la personne qui dénonce se sente en sécurité avant de pouvoir parler.
Absolument, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut toujours évaluer la situation dans laquelle on se trouve. Et à partir du moment où la dénonciation est explicite, est dangereuse, à partir du moment où votre intervention personnelle est très dangereuse, il faut trouver une autre stratégie. Il faut faire une dénonciation anonyme, il faut savoir vous organiser collectivement, parce que la dénonciation devient moins dangereuse à partir du moment où elle est collective.
Prenons par exemple ce qui s'est passé à Mbujimayi au mois de septembre en 2004. Qui pouvait faire la dénonciation, parce que c'est même la population a été partie prenante.
Mais il y a beaucoup de composants de la société qui peuvent faire de la dénonciation. Malheureusement, très souvent, elle reste inactive. Je commence par vous, les journalistes, les communicateurs. Les communicateurs, avec leur large audience, ils sont très bien placés pour faire une dénonciation efficace. Vous avez les communicateurs, vous avez les membres des associations de la société civile, vous avez les intellectuels, les professeurs d'université, vous avez les églises. En fait, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de référents sociaux qui peuvent intervenir pour faire de la dénonciation. Et dans ce cas-là, on a l'impression que beaucoup de gens ont approuvé cette tuerie des enfants, et ça, c'est vraiment très, très regrettable.
Oui. Donc, les communicateurs peuvent faire la dénonciation à travers les informations qu'ils diffusent.
Bien entendu. Je pense que ils doivent le faire. C'est une obligation de protéger la société. Quand on est communicateur, on doit participer à la protection de l'ensemble de la société, de toutes les composantes de la société.
Nous avons quelques messages ici à transmettre, mais vous pouvez déjà réagir là où vous êtes, en Mbujimayi ou ailleurs à travers le Congo. Appelez-nous au 081-890-6394. Vous avez la possibilité de nous écrire, de nous envoyer vos SMS à l'adresse au 081-0725. Si vous nous suivez sur Internet, vous pouvez réagir en nous écrivant à l'adresse action@radiocapi.net. Professeur Okomba, il y a un message qui dit, par exemple, « La passivité des témoins favorise le développement et la continuité de la violence parce qu'elle permet à auteur d'agir sans n'importe quelle conséquence et répercussion. La passivité légitime et normalise ses actes. » Voilà, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit que lorsqu'il n'y a pas d'énonciation, la personne, le bourreau, a la conscience tranquille et continue à opérer. Alors, si on reste passif face à la violence, peut-on ensuite avoir des remords ou se sentir coupable?
Absolument. On regrette toujours. Et le regret de ne pas avoir fait ce qu'on aurait dû faire pour empêcher la violence et pour sauver des vies humaines, c'est un sentiment qui habite toujours les témoins passifs. Et puis par la suite, la culpabilité les poursuit toute leur vie. Donc c'est un sentiment qui reste dans la conscience de manière définitive.
Et est-ce que cela est punissable par la loi? Souvent, on entend également parler de non-assistance en personne en danger. Il y a une personne qui était en danger quelque part, il y a des témoins qui étaient là, ils n'ont rien fait, et c'est condamnable également par la loi.
Mais bien entendu, un témoin passif, c'est quelqu'un qui est passible des condamnations devant les cours et tribunaux.
Oui.
On ne peut pas assister passivement devant la violence, on ne peut pas assister passivement à l'extermination des enfants ou de n'importe quel être humain. Et les lois de tous les pays du monde condamnent la passivité, l'assistance à personne en danger. Donc c'est une obligation légale pour tout le monde d'assister toutes les personnes qui sont en danger.
Alors, professeur Okomba Osisambi, je rappelle que vous êtes docteur en communication, et certaines personnes disent que certains leaders encouragent même la passivité. Ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui encourageraient la passivité. Est-ce que vous êtes de leur avis?
Non, là, je ne porterai pas une telle accusation qui est globalisante. Il faut citer des cas. Je ne dirais pas que les leaders en général favorise la passivité, mais il est arrivé que dans certains cas, certains leaders effectivement appellent à ne rien faire dans des situations de violence contre certains groupes ethniques.
Oui.
Là arrive, mais on ne peut pas généraliser à l'ensemble de la classe des leaders.
Par exemple, quand on instaure un climat de terreur, la peur, les gens ont peur de dénoncer certains faits, vous voyez, ça c'est encore un problème.
Si, si, mais j'ai dit que même dans ce climat de terreur, il est toujours possible de faire quelque chose. Il faut que l'on s'organise collectivement quand individuellement l'action n'est pas possible. Et même dans le cas individuel, moi, je crois qu'il faut transcender la peur. C'est ce que j'ai dit, il faut s'armer de courage, il faut lutter contre la peur et prendre position. Dans tous les cas, il y a des risques qu'il faut prendre. Il faut savoir prendre des risques quand on est devant la violence. Moi, je crois que c'est pire de se taire que de prendre des risques. Je préfère encore prendre des risques contre la violence que de me taire et être habité éternellement par le regret et par le remords.
Par le remords. Voilà, professeur Okomba Wetisambi, nous avons notre message qui dit dans une société où les témoins se rallient au bourreau pour s'en porter aux victimes, des violences peuvent être encore plus extrêmes car il n'y a pas de résistance et par ce fait les forces se sont rassemblées. Vous avez également parlé de cela tout à l'heure dans cette émission. Alors pour conclure, nous allons vous proposer de suivre cette conclusion qui est faite par Marcel Kankou.
Pour conclure l'émission d'aujourd'hui, disons que garder le silence sur des atrocités ou des actes de violence perpétrés sur un individu ou un groupe autour de nous est une marque de passivité. Une telle attitude peut non seulement permettre aux auteurs de ces crimes de continuer avec leurs actes de violence, mais peut aussi encourager la personne ou le groupe qui fait du mal à en abuser, car il estime que ce qu'il fait est normal puisque personne ne l'en empêche ou s'y oppose. Alors demandons-nous, les violences des groupes qui déchirent notre pays sont-elles des horreurs auxquelles nous devons nous résigner? Sont-elles un problème à résoudre ou un spectacle à regarder? Elles sont un problème à dénoncer et à résoudre. Par exemple, en ce qui concerne les enfants de la rue, à Bukavu, le centre de VS a pris des initiatives pour encadrer des enfants de la rue afin de les rendre utiles à la société. Ici, ils sont pris en charge sur le plan psychologique, scolaire et nutritionnel. À leur sortie de ce centre, ils sont en mesure de prendre en main leur avenir et de ce fait n'usent plus de la violence pour survivre, car ils ont un savoir-faire qui leur permet de travailler et de vivre. Cette initiative démontre que ces enfants sont égaux à nos enfants et qu'ils méritent la même attention que nos enfants. Lorsque des violences et autres atrocités se commettent dans notre milieu, nous devons les dénoncer le plus tôt possible. Si nous avons peur des représailles, nous pouvons dénoncer de façon anonyme ou alors collective. Ces dénonciations peuvent être faites au niveau de la presse locale, nationale, auprès de la famille, à l'église, à l'école, dans le milieu professionnel. Vous pouvez également vous plaindre auprès des autorités militaires, policières et administratives, car il est de leur rôle de reconnaître et de punir les actes de violence commis par les forces armées. Des exemples de réussite devraient nous encourager. Par exemple, un plaidoyer a été entamé dans le Nord Kivu auprès de la 8e région militaire en vue de punir les militaires qui abusent de leurs armes pour piller et s'enrichir. Ce plaidoyer est un travail long et complexe, mais il porte ses fruits et déjà les dirigeants des forces armées s'engagent à punir ceux qui usent de la violence. La construction de la paix est complexe, mais possible.
Professeur Okomba Wetisambi, docteur en communication, merci d'avoir été de notre et à la prochaine.
Je vous remercie également.
Okapi Action est à présent terminé. Le rendez-vous est pris pour le lundi prochain à la même heure sur la Radio de la Paix pour d'autres informations dans la vie quotidienne.